RT Cool. La radio. School.
Salut Aymeric.
Salut Bertrand. Tu fais quoi aujourd'hui?
Je vais acheter un perroquet.
Je vais te raconter une blague. Un monsieur va acheter un perroquet. Il entre dans la boutique et demande combien coûtent les perroquets et ce qu'ils savent faire. Le marchand dit « Alors, mon premier perroquet coûte 10 euros. Il sait lire, faire le café et parler. Bonjour !»« Mon deuxième perroquet coûte 20 euros et il sait tout faire. Rebonjour !»« Mon troisième perroquet coûte 30 euros. »
Si le perroquet qui coûte 20 euros sait tout faire, le troisième est indestructible.
Ah non, lui, il ne sait rien faire. C'est juste que les deux autres l'appellent chef.
Maintenant, direction le magasin.
Au revoir, Bertrand.
Au revoir, Aymeric.
Mandelieu, Lanapoul,
Istanbul,
Risoul,
Frioul,
Liverpool,
Banjul,
Aknoul,
La Bourboule,
Toul,
Blackpool,
Séoul.
Des endroits, il y en a une foule.
Sur RT Cool.
Ni hao,
c'est Qing Chang
et Yang Yang
qui vont vous présenter
la Chine.
La Chine est le troisième plus grand pays du monde
à cause de sa superficie de 9,5 millions de kilomètres carrés. C'est le pays le plus peuplé du monde.
De par son imposant nombre d'habitants, 1,3 milliard.
Rendez-vous compte
que c'est un sixième de la population mondiale.
Sa capitale est Pékin. Ses autres villes importantes sont Shanghai,
Tianjin,
Canton,
Nankin
et Macao.
Les langues parlées sont le chinois mandarin
et le chinois cantonais. Sa monnaie est le yu, c'est quoi déjà?
Le yuan, bien sûr.
À l'ouest de la Chine, il y a des montagnes et pas des petites.
C'est parce qu'il y a les monts Kunlun, Tibet et Himalaya. On trouve aussi des déserts, notamment celui de Gobi.
À l'est de la Chine, il y a des grandes vallées, notamment la Mandchourie.
La Chine a des climats qui peuvent provoquer des inondations. Le nouvel an chinois est le 8 février.
La Chine est le premier exportateur dans le monde.
Et la deuxième puissance économique.
On y récolte du soja,
des céréales,
du coton,
du thé
et du riz.
Salut, c'était Aloïs et Mathieu sur RT Cool.
Hey, c'est Anna
et Inès sur RT Cool.
Inès, j'ai attrapé une angine pendant les vacances et je ne peux plus prendre de glace.
Anna, je connais des remèdes pour soulager les angines.
Ah oui, ça m'intéresse.
Tu prends des feuilles d'ortie, tu les fais infuser 10 minutes dans de l'eau chaude, puis tu fais des gargarismes avec la préparation. Sinon, Anna, tu peux aussi prendre un jus de citron chaud avec du miel.
Merci Inès, ce sera plus facile. Mais pour la glace, comment on fait? Tous les marchands de glace sont fermés.
Ne t'inquiète pas, je vais fabriquer notre propre glace. Pour fabriquer ta propre glace, il faut un jus de ton choix, un verre, un bâton d'esquimau. Maintenant, la préparation. Tu prends le jus, tu le verses dans le verre, tu prends le bâtonnet et tu le maintiens au milieu du verre. Ensuite, tu le mets au congélateur pendant 2 heures.
Et voilà, notre glace est prête. Merci Inès, elle a l'air très bonne. Bon, bah, salut.
Oh non, Anna, tu m'as refilé ton angine.
Oups.
Salut la compagnie, c'est Alix.
Et Capucine sur RT Cool.
Cette semaine, le perso histo est...
L'impératrice Eugénie.
Eugénie de Montijo de Guzman, née le 5 mai 1826 à Grenade et décédée le 11 juillet 1920 à Madrid, est une personnalité politique française d'origine espagnole.
Ses portes sont très laides, il n'y a même pas de dorure.
Alix, t'as entendu cette voix?
Oui, mais on est en pleine émission de radio, on ne va pas laisser tomber nos auditeurs.
Viens, on va voir.
Non, alors, reprenons... Elle rencontra le prince-président, futur Napoléon III, qui la remarqua dès le premier coup d'œil lors d'une réception à l'Élysée.
Allez, viens!
Bon, d'accord.
Oh, mais c'est l'impératrice Eugénie!
Mais ce n'est pas possible. Elle est morte en 1920. Elle n'a pas pu ressusciter.
Si, c'est moi, l'impératrice génie de Montijo de Guzman.
Bon, bah, je te laisse, Alix.
Mais attends, c'est l'occasion de lui poser quelques questions.
Pas bête, pas bête.
Il faut d'abord qu'elle accepte.
Bonjour, Votre Majesté. Merci de votre visite inattendue.
Bonjour, ce sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions.
Tout d'abord, quel a été votre rôle dans la politique française à cette époque?
J'ai été mariée à Napoléon III, qui me laissait gouverner en tant que régente quand il n'était pas en France. J'assistais aussi au conseil après le retour de mon mari.
Quelles ont été vos actions pendant le règne de l'empereur?
J'ai fondé un orphelinat et la société du prince impérial pour aider l'installation des petits artisans.
Comment avez-vous été reçu par la cour française?
Ça n'a pas toujours été facile. Venant d'un autre pays et ayant des convictions politiques, je n'ai pas réussi à me faire apprécier de tout le monde. J'étais présentée comme frivole, dépensière et stupide. Point sur lequel il s'était largement fourvoyé.
Comment avez-vous réagi lors des épidémies de choléra en 1866?
J'ai tenu à être présente pour le peuple et je suis allée rendre visite aux malades dans les hôpitaux afin de leur apporter mon soutien.
Et votre fils?
Napoléon Eugène Louis Bonaparte était fils unique. Il est né le 16 mars 1856.
Étant concernée par son avenir, je me suis beaucoup impliquée en politique. Je n'ai pas accepté le retour de son père, qui avait perdu la guerre de 1870 à ses dents, pour assurer à mon fils une digne place d'empereur. Malheureusement, ce dernier fut tué le 1er juin 1879, à 23 ans seulement, en Afrique du Sud, lors d'une expédition anglaise contre les Zoulous. Qu'avez-vous fait après la chute de l'empereur?
J'ai quitté Paris pour aller en Angleterre où mon mari est venu me rejoindre. Et après la mort de mon fils, je voyageais entre la Côte d'Azur et l'Angleterre. Je me suis éteinte le 11 juillet 1920 à Madrid. Mais j'ai quand même tenu à vous rendre visite afin de pouvoir répondre à toutes vos questions.
Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Bon retour chez vous. Ce fut un honneur de vous recevoir.
Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Au revoir.
Cette rencontre imaginaire a été réalisée à l'aide d'une fiche de la classe
et d'Internet.
À la semaine prochaine sur RT Cool.
Le moment
des sciences.
Allô, allô, c'est Chloé et Paul sur RT Cool pour le moment des sciences.
Paul, que fais-tu avec ce téléphone?
Eh ben, j'envoie des textos, comme tout le monde.
Mon pauvre, un téléphone, c'est fait pour téléphoner.
Plus de nos jours, tu n'as jamais entendu parler du smartphone?
Du smart quoi?
Un smartphone, ou téléphone intelligent.
Comme si je n'étais pas intelligente, moi.
Est un téléphone mobile évolué disposant des fonctions d'un assistant numérique personnel, d'un appareil photo numérique et d'un ordinateur portable. Le premier smartphone... L'IMB Simon fut conçu en 1992 et commercialisé en 1994. En 1992, le GSM est utilisé dans 7 pays d'Europe avec un débit de 9,6 kilobits seconde. Puis, au début des années 2000, le Edge permet un débit réel de 177 kilobits seconde. Dès 2006, la 3G puis la 3,5G se sont développées, permettant maintenant 3,6 mégabits seconde de débit, étendu jusqu'à 42 mégabits seconde. Maintenant, pour que tu comprennes mieux, une directrice d'une marque de smartphone très connue va te donner quelques renseignements.
Bonjour, je suis ici pour vous parler des accessoires. Un smartphone peut être accompagné des écouteurs, d'une protection supplémentaire, la Wi-Fi et un chargeur. Je vois que c'est très compliqué. Je vais en rester aux anciens téléphones.
Au revoir et à la semaine prochaine. On coupe.
Había una vez.
Once upon a time.
Ishe.
Elle a oublié.
Kanyamakan.
Il était une fois.
La phrase de la semaine. Hello, it is Eva.
And Barnabé pour vous faire réviser votre anglais.
Alors Barnabé, pour réviser ton anglais, comment dit-on en anglais ? En mars, c'est le temps des averses.
On dit in March, it's time of rain showers.
Bien joué, tu as un point. You've got one point.
Maintenant, à moi de jouer. Eva, comment dit-on en anglais ? Salut tout le monde, nous espérons que vous avez pensé à la fête des grands-mères dimanche dernier.
On dit Hi everybody, we hope that you look at the grandmother date one last Sunday.
Bravo à toi aussi. You've got one point too.
Égalité. Bon, on se quitte sur ça.
Nous espérons que vous avez bien révisé votre anglais.
Au revoir et à la semaine prochaine pour des phrases toujours plus bizarres les unes que les autres.
Le coin du musicien.
Hey hey les auditeurs d'RTCool.
Aujourd'hui c'est le djembé qu'on va vous présenter.
Il vient de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément de l'Empire Mandingue,
dit aussi Empire du Mali, mis en place par Sundiata Keïta au XIIIe siècle, qui comprenait l'actuelle Guinée à l'est du Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
Le djembé, appelé par les Soussou de Guinée-Boté, fait partie d'un ensemble polyrythmique et ne s'entend que très rarement seul.
Les instruments de cet orchestre sont le doudounba, le sangban, le kenkeni, plusieurs djembés d'accompagnement et un djembé soliste.
De plus, il est presque indissociable de la danse africaine dont les phrases du soliste marquent les pas.
C'est dans les années 1950 que le djembé commence à s'exporter en dehors de l'Afrique.
Grâce à Fodeba Keïta et les ballets africains, puis grâce à la Guinée et son président Sékou Touré,
qui encouragea la création du ballet national de la République.
C'est dans les années 1980 que le djembé conquit le monde.
Grâce à de grands djembéfola joueurs issus des ballets nationaux, Mamadi Keïta, le plus connu d'entre eux,
mais aussi Famoudou Konata,
ou encore Adama Dramé, qui jouent régulièrement et ont fondé des centres d'apprentissage.
En Europe, aux États-Unis et au Japon. Dans les années 2000, le djembé s'illustre hors de son contexte traditionnel
pour accompagner des musiques résolument modernes.
Dès 2002, le percussionniste de l'artiste américain Jason Mraz,
Noel Toca Rivera, propulse l'instrument modernisé dans la musique pop-rock avec une tournée en duo guitare et djembé.
La percussion accompagnée désormais des instruments électriques, guitare, basse, huit cordes, sur des titres blues et afro-rock.
Allez Rémi, notre djembé fola, à toi de jouer.
On se retrouve la semaine prochaine.
Le moment des sports.
Yo tout le monde, on est là pour le handball.
Cool, alors on commence maintenant.
J'ai envie de connaître son histoire.
Les premières traces de jeux similaires au handball remontent à la France médiévale.
Le jeu moderne prend ses sources au 19e siècle, au Danemark sous le nom de handball, ou encore en Tchécoslovaquie sous le nom de Azena.
Un Irlandais du nom de Casey introduisit un jeu semblable au handball aux États-Unis.
Il provoque un tel engouement qu'une compétition aurait même vu le jour en 1919 à Los Angeles.
Cependant, le handball est considéré comme un sport de conception danoise.
Le Danois Holger Nielsen créa les règles du handball moderne handbold en 1898.
En 1219, le professeur allemand Karl Schillens de l'école normale germanique d'éducation physique de Leipzig provoque une adaptation du torball, sorte de balle au but pratiquée par les femmes allemandes. Il créa alors le handball à 11.
De nos jours, Le handball est un sport collectif où deux équipes de 7 joueurs s'affrontent.
Il y a beaucoup de postes au handball. Poste 1.
Le gardien de but. C'est le seul joueur qui a le droit de toucher la balle dans sa propre zone. Son rôle est d'empêcher les tirs de l'équipe adverse de rentrer dans son but. Les joueurs de son équipe n'ont le droit de lui faire la passe s'il est dans la zone, mais en dehors, oui. Les joueurs occupant ce poste sont habituellement une taille approchant les 2 mètres et d'une souplesse importante pour pouvoir aller chercher le ballon dans les coins de la cage, que ce soit avec leurs mains ou avec leurs pieds.
Poste 2. L'ailier gauche, dans le coin gauche, le long de la ligne de touche. Ce poste est occupé par un droitier de taille moins importante que ceux occupant les postes centraux et ayant une grande souplesse de mouvement. Lors d'une attaque placée, il a pour rôle de se tenir le plus près possible de sa ligne de touche afin d'étirer la défense adverse sur la largeur. Il lui arrive aussi de glisser dans la défense adverse pour faire office de second pivot pour désorganiser le système défensif adverse. Poste 3.
L'arrière gauche. À un quart du terrain, en partant de la gauche, poste généralement occupé par un droitier. Son rôle est de faire office de rampe de lancement des attaques de son équipe. En position d'attente de la balle, il se tient en général à plus de 15 mètres du but. Il reçoit un ballon généralement lancé de plusieurs solutions peuvent lui présenter à lui. Il peut par exemple transmettre la balle au côté opposé d'où elle arrive. Poste 4.
Le demi-centre, au centre du terrain. Ce poste, qui est le mien, correspond un peu au meneur de jeu de l'équipe. Son rôle est de lancer les attaques et de les annoncer aux autres membres de l'équipe. Ce sont en général des joueurs de taille plus petite que les arrières qui sont capables de s'introduire dans la défense adverse. À cause de la rapidité et de la souplesse nécessaires pour ces entrées, ce poste est parfois occupé par des joueurs pouvant aussi jouer à l'aile. Poste 5.
Le pivot. Le long de la zone décimètre, circulant essentiellement au centre situé au cœur de la défense adverse, il sert à fixer les défenseurs adverses soit en restant bien en face des buts, soit en se déplaçant le long de la ligne de zone vers la droite ou vers la gauche. Lorsqu'un de ses arrières tente de s'introduire dans la défense adverse, il effectue des blocs, c'est-à-dire qu'il fait opposition de son corps pour faire écran entre les joueurs de son équipe et son défenseur. Poste 6.
L'arrière droit, à un quart du terrain en partant de la droite. Ce poste a des caractéristiques en tout point identiques à celui d'arrière gauche, mis à part qu'il est généralement occupé par un gaucher.
Poste 7.
L'ailier droit, dans le coin droit, le long de la ligne de touche. Ce poste a des caractéristiques en tout point identiques à celles d'ailier gauche, mis à part qu'il soit occupé par un gaucher, soit par un droitier ayant les capacités de tirer de manière désaxée. Défenseur exclusif.
S'il ne constitue pas un poste en tant que tel, certains joueurs se sont spécialisés sur des tâches défensives et ont un rôle offensif inexistant ou très limité. Olivier Roguiche ou encore Raphaël Tervel figurent parmi les défenseurs célèbres. Et toi, Manon, tu fais du handball ?
Oui, j'en fais. Et toi ?
Non, dommage, mais j'aimerais en faire.
Moi, je suis dans le club ici Paris Hand.
Cool !
Et j'ai regardé l'heure, on doit manger.
Ok, alors.
Salut tout le monde!
Son mystère.
Le son de cette semaine est...
Nathan, tu vas trop vite, commençons par le commencement.
Bon, d'accord, Rémi.
Les gagnants de la dernière émission sont...
Rémi, il n'y a qu'une personne. Le gagnant, ou plutôt la gagnante, est...
Séverine Afid. Le son était celui d'une planche d'aggloméré que l'on secoue. Vous savez, celle qui sépare les bouteilles sur les palettes dans les supermarchés. D'ailleurs, si vous en possédez, pourriez-vous nous en faire don ?
Et maintenant, le son mystère est... Si vous l'avez trouvé, répondez-nous sur son-mystère.cm2@laposte.net.
À la semaine prochaine sur Son Mystère pour un nouveau RT Cool.
RT Cool.
La radio.
School.